ouverte, hashtag mes données.
Eh oui, les données scolaires qui sont aussi des données personnelles, l'école publique en regorge, Xavier Bloch.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a alors les données transmises par les parents au début d'année, les données produites par les élèves, les données échangées entre élèves, sur le cloud par exemple, les données échangées entre enseignants, les données distribuées par les enseignants, je pense, aux examens.
Et à quelles questions allons-nous tenter de répondre d'ici 9h30?
Ah, beaucoup de questions. Comment ces données scolaires sont-elles stockées? Où sont-elles stockées? Qui peut les consulter? Comment? Quelle est la marche à suivre? Puis enfin, pendant combien de temps peut-on consulter les données scolaires?
Bonjour Christian Flukiger.
Bonjour.
Merci d'être dans On en parle ce matin. Vous êtes le préposé à la protection des données des cantons de Neuchâtel et du Jura. Nous vous recevons aussi en qualité de membre du comité Privatim. C'est l'association des commissaires suisses à la protection des données, c'est bien ça?
C'est juste.
Et toutes ces données scolaires auxquelles faisait allusion Xavier Bloch, en fait, légalement, à qui elles appartiennent? Est-ce qu'elles appartiennent à l'élève, aux parents, à l'école, à la commune?
Elles appartiennent avant tout à l'élève, puisque les données personnelles font partie des droits qu'on appelle strictement personnels. Donc à partir du moment où l'élève a le discernement, il devient propriétaire de ses données personnelles.
Ça veut dire que quand il est mineur, elles ne lui appartiennent pas encore?
Oh, si, à partir du moment où il a le discernement, c'est-à-dire...
Ah, discernement, ça veut dire...
C'est donc... plus ou moins 8-10 ans.
Mm-hmm. Donc avant, c'est ses parents qui en disposent?
Effectivement, c'est ses parents qui sont les propriétaires à sa place le temps qu'il obtienne le discernement.
En Suisse, quelle loi régit les données scolaires? Sont des lois plutôt cantonales ou la loi fédérale qui s'applique?
Plutôt cantonales, c'est les lois cantonales de protection des données qui imposent les règles qu'on va voir de gestion, d'accès et autres.
Christian Flukiger, vous allez nous accompagner durant toute cette demi-heure. Je vous présente un élève modèle, peut-être un tout petit peu timide. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Basile.
Basile, quel âge tu as, Basile?
Ben, j'ai 4 ans, donc j'ai pas encore le discernement.
Oui, tu viens de commencer l'école alors?
Ouais, et je suis en première H, première Armos à Colombier. Et puis si tu me crois pas, moi je dirais tout à mon papa parce qu'il est journaliste. Et puis c'est ça qu'il a écrit, journaliste, sur la feuille pour la maîtresse.
Alors attention à ce qu'on dit. Et oui, il affiche des données personnelles scolaires. Dans le canton de Neuchâtel, ces données sont centralisées, elles sont stockées au service de l'informatique scolaire. Xavier Bloch s'y est rendu. Reportage.
Ah, c'est à la cave, ici on descend un escalier recouvert de moquettes. Voilà, c'est ici. Sonnez et patientez. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Xavier Bloch, j'ai rendez-vous avec Patrick Duvaneuil.
C'est moi-même. Bienvenue à l'Office de l'informatique scolaire et de l'organisation.
Vous êtes bien protégé là, à la cave, porte presque blindée.
Ah, c'est normal, nous conservons quand même des données personnelles, des données informatiques ou parfois des données sur support papier.
On va directement dans la salle des serveurs?
Ah, désolé, alors la salle des serveurs, notre centre de calcul n'est pas accessible facilement.
Donc direction votre bureau?
Volontiers, suivez-moi.
Patrick Duvaneuil, vous êtes chef de l'Office de l'informatique scolaire et de l'organisation du canton de Neuchâtel. Alors, il y a les serveurs, et puis à l'autre bout, il y a le portail, hein, le portail public, le portail pour les profs également. On peut peut-être voir à quoi ça ressemble. On allume un de vos ordis dans votre bureau.
Voilà, donc j'ai allumé l'ordinateur, j'ai lancé le système d'information de gestion scolaire qui est déployé dans les écoles neuchâteloises. Et maintenant, nous allons créer ici un élève. Donc, il faut imaginer que j'ai reçu le formulaire d'inscription des parents sur papier. Ils m'ont communiqué un certain nombre d'informations, le nom, le prénom, les adresses, le domicile. Et ensuite, je vais devoir reporter ces informations dans notre système.
Quelles sont les données les plus sensibles qui y figurent?
Alors, des données sensibles, il n'y en a pas vraiment au sens de notre convention relative à la protection des données. Des données sensibles seraient liées notamment à des données de santé, à des données aussi liées à la confession ou à des opinions politiques, par exemple. Alors, nous n'avons pas ce type de données dans notre système. Voilà, donc ici, moi, j'ai créé mon élève, j'ai ajouté ses parents, l'adresse de ses parents. Donc, l'élève est inscrit dans mon école. Et ces données-là vont pouvoir être utilisées durant la vie scolaire de notre élève.
Voilà, reportage à Neuchâtel. Christian Flukiger, à Neuchâtel, la confession de l'élève, on l'a entendu, n'est pas prise en compte. Est-ce que c'est partout comme ça dans les cantons? Les pratiques sont-elles homogènes?
Alors, je n'ai jamais creusé le sujet dans tous les cantons. Je ne pense pas que c'est homogène. Déjà, il faut savoir que le canton de Neuchâtel est laïque. Donc, je soupçonne que dans les cantons qui ont une confession, ça, on le sache.
Dans les cantons catholiques, on note la confession dans la fiche scolaire des jeunes enfants.
Je soupçonne.
T'as confirmé, peut-être, Xavier?
Alors, si mes enfants sont scolarisés en Valais, par exemple, est-ce que je peux refuser de transmettre à l'autorité scolaire la confession de mes enfants?
En principe, on peut. Après, on doit vous rendre attentif sur les conséquences que cela peut avoir. Donc, si on demande la confession pour ensuite offrir des cours à disposition de, par rapport à votre confession, ben, faudra vous attendre à ce que vous ne soyez pas informé qu'il y a ces cours à disposition et lesquels sont à disposition. À partir de là, vous pouvez refuser de donner. Après, il y a aussi l'aspect fiscal, mais je pense pas que ça passe par l'intermédiaire des élèves.
Frédéric Vollery.
Imaginons que cet élève soit dyslexique, que ses parents divorcent, qu'il ait des troubles du comportement à l'école. Est-ce que toutes ces données vont figurer quelque part?
Les données familiales.
Alors, si on souhaite que notre enfant soit aidé pour une dyslexie ou une dysphasie, etc., à partir du moment où les parents, ou plutôt les gens qui ont l'autorité parentale, quand il y a divorce, mettent à disposition de l'école ces informations, elles osent les traiter. Après, les parents sont libres à un moment donné de dire « je ne désire plus que l'école détienne cette donnée » et demander à ce qu'elle soit effacée.
Alors vous dites « l'école détient ces données », mais à qui ces données personnelles peuvent-elles être transmises? Par exemple à des clubs sportifs ou des entreprises de transport public ou que sais-je?
Non, Dieu merci, pas aussi largement.
Vous souriez en répondant.
du moins, j'espère pas. En tout cas, ils ne s'en sont pas vantés. Mais non, blague mise à part, ces données restent au sein de l'école. Et le principe général qui est valable pour tous les cantons, l'autorité qui détient cette information n'ose la donner qu'à celle qui en a un besoin nécessaire pour accomplir sa tâche légale. Donc, une donnée comme la dyslexie, à la limite, on pourrait imaginer qu'elle passe au médecin scolaire, puisque dans sa mission, il a peut-être une mission de soutien à ce niveau-là, mais pas au-delà. Et on doit toujours se poser la question, est-ce que l'information que je détiens, donnée par les parents, est-ce qu'elle sera nécessaire? Enfin, est-ce qu'il est nécessaire que quand il y a une espèce de commission scolaire qui entoure l'école, sache qu'il y a une dyslexie chez un élève? Rien n'est moins sûr.
Alors j'aimerais qu'on entende un peu notre jeune invité, notre petit élève témoin. Oh,
Basile.
On dirait qu'il a grandi depuis tout à l'heure, Basile.
Ben ouais, maintenant j'ai 8 ans et je suis en 5H, 5e Armos.
Bravo. Alors la 5e, c'est le début du 2e cycle.
Ouais, c'est surtout le début des notes, le carnet scolaire. Et à la maison, ben, mon papa, il peut regarder mes notes sur Internet.
C'est vrai. Le canton de Neuchâtel permet la consultation de données scolaires en ligne. Alors, comment ça marche? Suite du reportage de Xavier Bloch au Centre cantonal d'informatique scolaire de Neuchâtel.
Patrick Duvanel, alors on est toujours face à votre ordinateur dans votre bureau. Mais vous avez changé de casquette, vous êtes parent maintenant.
Voilà, je suis parent et je vais consulter certaines données de mes enfants à travers une plateforme électronique qui s'appelle le guichet unique. Je peux non seulement dans ce guichet unique consulter certaines informations scolaires de mes enfants, mais en tant que citoyen, je peux accéder à d'autres prestations.
Alors, c'est assez simple, hein, ça marche comme tous les guichets uniques. Donc, un ordinateur, une souris, une connexion Internet et un smartphone.
Je vais rentrer mon nom d'utilisateur. Donc là, on est dans des notions du savoir. Je connais mon nom d'utilisateur, je connais mon mot de passe. Et ensuite, pour une authentification lourde, on est avec l'avoir. Donc, j'ai un smartphone qui me permettra de me donner un numéro que je viens de recevoir.
Ouais, j'ai entendu vibrer.
SMS.
C'est sûr, ça?
C'est autant sûr, en fait, qu'un système bancaire en ligne.
Alors, je guigne sur l'écran. Vous avez combien d'enfants?
J'ai 2 enfants. Donc, je vais cliquer ici sur la rubrique école. Et puis, on voit un certain nombre de prestations délivrées. On a notamment accès aux bulletins scolaires, aux horaires. Et puis, après, à diverses attestations. et à une prestation qui aujourd'hui est déployée uniquement pour les étudiants et les apprentis des écoles techniques, qui sont les notes détaillées, donc les notes continues.
Ils ont des bonnes notes, vos enfants ?
Ah ben, nous allons voir ça.
Vous cliquez sur bulletin scolaire, j'en suis témoin. On va voir ce qu'ils vous ont caché, alors.
Voilà, donc je vais aller sur les bulletins de ma fille. J'ai 4 bulletins disponibles. Je vais prendre le dernier, celui-ci.
Bon, c'est pas très risqué, il n'y a pas de notes dans le canton de Neuchâtel.
Ah, il y a des notes au cycle 3. Voici donc l'exemple d'un bulletin qui est généré par le système. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce bulletin, il est valable juridiquement parce que nous avons ici un numéro, un code de validation qui permet à tout détenteur de ce bulletin ou une personne à qui serait transmis ce bulletin de vérifier l'authenticité de ce bulletin à travers ce numéro.
Là, vous pourriez l'imprimer, le bulletin ?
Je peux l'imprimer, absolument. Je peux l'imprimer 10 fois, 20 fois, 30 fois.
Et le placarder dans la chambre de votre
absolument.
Fille ?
Absolument, ou pas.
On parle données scolaires jusqu'à 9h30 avec Christian Fluckiger, préposé à la protection des données des cantons de Neuchâtel et du Jura. Est-ce que les carnets scolaires sont informatisés dans tous les cantons romands, comme c'est le cas à Neuchâtel ?
Je pense que la plupart, oui, ont passé en mode informatisé. Je ne suis pas sûr que tous les cantons aient un accès en ligne au carnet, mais les écoles le gèrent de manière informatisée.
Alors, on a les notes, on a les moyennes. Est-ce que les données sur le comportement, par exemple, les punitions, les éventuelles sanctions, figurent aussi dans ces données ?
C'est variable d'une école à, j'imagine d'un canton à l'autre, d'une école à l'autre. Dans mes cantons, en tout cas dans le canton de Neuchâtel, je ne suis pas sûr que les sanctions figurent dans le système informatique.
Qui peut avoir accès à ces données ?
Alors, c'est évidemment les enfants eux-mêmes, les représentants de l'autorité parentale. Après, ben, il y a les écoles en fonction de leur intérêt, les directions pour une partie des données, les enseignants pour une autre partie. Après, c'est scindé par rapport à la nécessité d'acquérir l'information.
Vous dites que les enfants eux-mêmes ont accès à ce carnet informatisé. Il faut qu'ils aient le code, que papa ou maman donne le code quand même.
Alors, ils peuvent à tout le moins faire la demande, soit à l'autorité scolaire ou à leurs parents, de consulter les documents qu'on détient sur eux.
Et combien de temps ces données sont-elles conservées ?
Alors, le principe général qui vaut aussi pour tous les cantons, c'est qu'elles peuvent être conservées tant et aussi longtemps que c'est nécessaire. Alors, c'est là le grand problème de la protection des données, quelle que soit la matière, c'est où on met le curseur de la nécessité. Mmh. Alors, vous avez une administration qui dira que c'est très très longtemps nécessaire. Évidemment, les administrés trouvent que c'est toujours trop long. Faut trouver un juste milieu. Alors, un carnet scolaire, ben, ça peut être relativement long parce qu'il faut pouvoir qu'on atteste de notre parcours scolaire, à peu près tout au long de notre vie. Donc il faut laisser une trace, mais il faut aussi épurer. De savoir qu'on a été dyslexique à l'école, je pense pas que c'est une donnée qui doit rester très longtemps. En revanche, ben, le résultat final de la scolarité, celui-ci, il doit être attestable à peu près en tout temps.
Donc 30 ans après, si je suis pris d'un accès de nostalgie, je pourrais peut-être pas consulter mes données scolaires, en tout cas informatisées, dans la version informatisée.
Oh, si, mais en principe, ça ne devrait être qu'une partie, celles qui sont nécessaires pour attester de votre parcours scolaire.
Mm-hmm. Et pas le 2,8 de physique que je me traîne depuis 25 ans.
En principe, pas.
Sur Twitter, votre homologue valaisan Sébastien Fanti nous signalait qu'il fallait faire un distinguo entre les données scolaires proprement dites et puis les notes personnelles des profs. Est-ce que ces notes personnelles font partie des données scolaires, Christian Fluckiger ?
Alors, elles font pas partie des données dites accessibles. Par notes personnelles, il faut faire attention. C'est vraiment la note que l'enseignant garde exclusivement pour lui, ne communique pas à des tiers et qui ne contribue pas à l'activité métier. C'est-à-dire que s'il ne peut pas mettre des informations sur l'élève par rapport à son attitude dans les évaluations et autres, parce que ça fait partie de son métier. Par contre, de se mettre une petite note, attention, cet élève est particulièrement lent, je dois faire attention, ça c'est sa note personnelle.
Alors notre petit élève, Basile, est toujours là, sage comme une image, alors là il mériterait une bonne note. Mais c'est fou, tu as encore grandi un peu plus depuis tout à l'heure.
Ouais, et puis j'ai la voix qui change un peu.
T'as la
ben, ouais, j'ai 14 là, mais puis je mets du déo. Mais je suis en 10e Armos là maintenant. Et puis en classe, bah, je suis souvent dans les nuages, quoi, enfin dans le cloud. Non mais vous rigolez, mais WhatsApp c'est super pour les devoirs, quoi, c'est cool.
Oui, le cloud, plateforme donc virtuelle d'échange de fichiers informatiques, un nuage tellement pratique pour les profs et les élèves. Alors d'un côté le cloud public Educanet, et puis de l'autre les clouds privés. Christian Flukiger, quelles sont les précautions à prendre avant d'autoriser des élèves à utiliser le cloud privé, comme ça peut se faire dans certaines écoles?
Il faut surtout s'assurer que ça soit stocké en Suisse, voire en Europe, et que ça ne soit pas sous l'emprise des grands géants américains, parce qu'on n'a plus aucune maîtrise de nos données, et encore moins la confidentialité.
Alors Xavier Bloch, quelle utilisation les écoles romandes font-elles des clouds privés?
Alors nous avons enquêté, 4 cantons n'utilisent aucun service de cloud privé à l'école. Il s'agit de Fribourg, du Jura, du Valais et du canton de Vaud. Dans les cantons de Neuchâtel et de Berne, l'utilisation d'un cloud privé est possible, mais sous contrôle et avec des règles très prudentes. Enfin, Genève se distingue puisque les petits Genevois utilisent une suite d'applications en ligne de Google, email, partage de documents. Alors, il s'agit d'une licence spéciale pour l'enseignement qui a été approuvée par le canton. De plus, des règles strictes sont posées, c'est-à-dire que les élèves y accèdent à ce cloud avec des pseudos et n'y déposent en aucun cas des données personnelles.
Et vous l'avez dit, Xavier, le canton de Vaud n'utilise pas de cloud privé à l'école, sauf à QJ. QJ près de Lausanne, où une expérience pilote est menée en classe. Une 20aine d'élèves partagent des documents sur le nuage informatique. Reportage.
Alors venez seulement, ma classe est tout au fond. C'est ouvert. Donc j'enseigne ici principalement des élèves de 11e année, le français, l'histoire et la géographie. Les ordinateurs, il y a le poste central qui est disponible. Et sinon, on travaille avec un chariot qu'on va chercher en salle d'informatique et on a une 20aine d'ordi à disposition. Donc, voilà. Des Mac, oui. Pour accéder à nos documents, on doit se loguer à notre compte iCloud avec notre adresse personnelle et notre mot de passe. La même chose pour les élèves. Je leur ai créé un compte. Et puis ils se sont inscrits, ils ont enregistré leurs données, voilà, leur mot de passe, ils ont choisi ce qu'ils voulaient.
François Jäger, vous êtes responsable de l'UIT, l'unité infrastructure technologie des écoles obligatoires du canton de Vaud. E-cloud, c'est du Apple que vous avez choisi?
Alors, dans les conditions générales du service, Apple stipule notamment qu'elle ne revendra pas les données, qu'elle ne les collecte pas à des fins de revente. Donc ça, c'est déjà un élément important. Un deuxième élément qui surprend souvent, c'est de se rendre compte que le fort juridique et les lois en vigueur, si procès il devait y avoir, sont celles du domicile de l'utilisateur. Voilà, alors ce qu'on peut dire à propos de ce cloud, c'est qu'en fait, toutes les données qui sont déposées sont des données qui sont entièrement cryptées. C'est-à-dire qu'elles sont cryptées à l'aide du mot de passe de l'utilisateur. Et ça a été un élément qui a été passablement discuté avec les élèves. Donc c'était aussi, ça faisait aussi partie de leur formation, quelque part, à ces notions de cloud.
Sandrine Righetti, vous êtes enseignante à QJ, vous enseignez à des 9e, 10e et 11e Armos. On vous retrouve dans votre classe. Alors là, on a l'agenda, c'est-à-dire que sur le cloud, tous les élèves ont accès à l'agenda de la classe.
Voilà, exactement. On a ouvert cette plateforme. Ça permet à tous les élèves d'avoir en temps réel les devoirs qu'ils ont à réaliser pour la semaine. Plus qu'un agenda papier, ça permet d'annoter les devoirs, de donner des liens, de proposer des corrigés, de compléter la consigne par une démarche ou d'autres conseils pertinents, j'espère, pour eux.
Et d'y avoir accès tout le temps.
D'y avoir accès tout le temps, voilà.
Jean-Michel Amiguet, vous êtes directeur de l'établissement primaire et secondaire de QJ et des environs. On est maintenant dans votre bureau, le bureau de la direction. Si un des élèves qui participe à cette expérience, hein, ce cloud en test, n'a pas d'appareil chez soi, par exemple, n'a pas de smartphone, il ne va pas pouvoir participer à l'expérience.
S'il y a l'un ou l'autre élève qui a besoin d'un ordinateur, il peut être prêté à l'élève qui en a besoin.
à terme, est-ce qu'on peut imaginer qu'un établissement comme le vôtre ordonne, exige que chaque élève ait une adresse e-mail, par exemple?
Ça me semble difficile. Il faudrait, à mon avis, que ce soit une envie ou un souhait qui soit plutôt cantonal.
Christian Flückiger, on entend dans ce reportage Apple, Google, donc des noms de marques. Pourquoi ne pas encourager une utilisation citoyenne du web des données à travers les logiciels libres? Est-ce qu'on y a pensé dans les cantons?
Alors, j'imagine qu'ils y pensent vu les coûts qui sont nettement inférieurs, et surtout Google qui est, sauf erreur, gratuit, ou à peu près gratuit. Et que on le sait tous, nos cantons sont à la recherche de réduction d'économie le plus possible. Simplement, où je suis surpris, c'est que quand on dit voilà, c'est un produit Google, c'est un produit iCloud, mais on vend personne, on garde les données pour nous, ça choque personne. On se dit ah ben si c'est iCloud qui les garde, tout va bien. Mais si maintenant la Migros ou la Coop offrait un produit similaire en disant on vend à personne les données, mais comme ça on permet d'analyser le consommateur dans le détail, il y aurait une levée de bouclier. Mmh. Mais les jeunes de maintenant sont les futurs clients d'Apple, Google et autres.
Mmh. Justement. Donc notre enquête se poursuit. Notre enquête Donnez-moi mes données se poursuit. C'est pour cela qu'on l'a ouverte et qu'on ne sait pas jusqu'où elle nous mènera, mais en tout cas elle est ouverte et elle est à disposition sur Internet, sur www.rts.ch/mesdonnées. Et puis notre élève témoin, qu'est-ce qu'il en pense, lui? On ne l'entend plus.
Moi, j'ai mué, là. Je suis en année de maths professionnelle. Moi, j'ai 18 ans. Maintenant, je m'en fiche. Je signe mes carnets scolaires tout seul. Et d'ailleurs, j'ai décoché pour que mes parents puissent plus signer mes carnets.
C'est bien, vous avez bien raison. D'ailleurs, vos parents n'ont plus accès à vos données. Depuis que vous avez 18 ans. Merci beaucoup, Xavier Bloch, qui faisait un petit jeu de rôle pour l'occasion. Merci aussi à vous, Christian Flückiger, préposé à la protection des données du canton de Neuchâtel et du Jura. Et puis merci aussi à nos recherchistes Bastien Fonvis et assisté de Selma Memic.